RMC, 18h-20h, ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h02, vous êtes dans la deuxième heure d'ici c'est Willy jusqu'à 20h, toujours avec François Pinet et Louis Amar. Toujours on accueille maintenant Madame Laure Lepailleur et Messieurs Rio Mavouba et Lionel Charbonnier. Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Salut Willy.
Bonsoir à tous.
Salut à tous.
Bon, ça va?
Ouais, super.
Ouais.
Super. En forme.
Ouais, y a pas quelque chose qui s'annonce là.
Bientôt,
ouais.
J-7.
Ah, ça arrive. Bah, on a déjà vu. C'est la préparation, elle a bien se passé.
C'est J-2 avant France Bolivie, non?
Oh.
Ça qui... oh.
Il va falloir s'y mettre. Hein.
Mais oui.
Tu sors.
Non, mais c'est exprès, évidemment.
Non, il y a eu quoi? Il y a eu pour l'instant un match de préparation.
Ouais, la Thaïlande.
Ouais. Quand est-ce qu'il y a le deuxième?
Ce soir. Face à la Chine.
Ah. Et bien au courant aussi.
C'est ça. Et
on rembarque dans un instant.
Moi, c'était une blague au moins.
Allez, mais dans une vingtaine de minutes de suite.
Justement, dans une vingtaine de minutes, Willy. La minute Lepailleur sur l'équipe de France féminine qui affronte donc ce soir la Chine en match de préparation.
Non, mais on est tous d'accord pour dire, les matchs amicaux, ça sert à rien. On veut voir la compète.
Dernier match de préparation avant le mondial. Dans le carré VIP, le mercato du Real Madrid avec Fred Hermel. Dans le Focus Ligue 1, on évoquera la succession de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne. On terminera comme tous les soirs avec le buzzer Pinet. Mais d'abord, on revient à cette finale de Ligue des Champions demain entre Liverpool et Tottenham.
RMC.
La déception est souvent plus forte que l'espoir.
Willy contre-attaque.
Capitaine des Bleus, capitaine des Spurs, Hugo Lloris peut réussir en moins d'un an un incroyable doublé, champion du monde et champion d'Europe. Il ne serait que le deuxième gardien de l'histoire à y parvenir après l'illustre Sepp Maier. Est-ce que ça changerait, Willy, la perception qu'on a de lui, et est-ce qu'il serait, Lloris, davantage reconnu?
Je pense pas que ça changera la perception qu'ont les gens de d'Hugo. Hugo, c'est un grand gardien, il était champion du monde, il représente la continuité, que ça soit en équipe de France, mais dans son club aussi. Ses performances sont toujours de très 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 haut niveau. Après, la seule problématique d'Hugo, c'est que quand il fait des erreurs, généralement, malheureusement pour lui, ce sont des erreurs qui se voient beaucoup. Donc c'est pour ça que on a toujours du mal à dire est-ce qu'il fait partie des 3 meilleurs, des 5 meilleurs, des 10 meilleurs, des 15 meilleurs, parce que si on enlève 2-3...
Des 15 meilleurs, on n'a pas du mal.
Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais, si on enlève 2-3 couilles quand même qu'il a faites, que ça soit sur sa ligne, dans l'anticipation, au niveau de l'agilité, au niveau de l'aura qu'il a aussi sur ses défenseurs, bah, c'est un super gardien, il fait partie des meilleurs.
Tu parles des boulettes, mais il y en a eu un peu plus que 2-3. C'est ça le problème.
Ah, 2-3, très grosse, on va dire.
Si on fait le point depuis 2015, c'est le gardien qui fait le plus d'erreurs en championnat, en première ligue, d'erreurs ayant amené un tir ou un but, 25 erreurs au total, hein, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à compter toutes ces erreurs, responsable sur 11 buts.
Et combien il en a sauvé aussi, c'est
ouais,
peut-être ça.
Alors justement, on y va, parce qu'il y a, sur ces 11 buts, il y a 6 buts lors de matchs importants aussi face au Big Six, donc ça marque les esprits, c'est ce que tu as dit, aussi on peut parler de sa boulette en finale de Coupe du Monde. Mais sinon, il y a un autre chiffre, si on préfère voir le verre à moitié plein, deuxième pourcentage d'arrêt de première ligue depuis 4 ans, derrière un certain De Rea.
Ouais, ça veut dire, François, qu'il est une défense de merde. Non, mais c'est toujours pareil. C'est, oui, enfin bon, c'est les bizarre. Chiffres. On donne des chiffres. Alors, c'est bien, il faut donner. Mais c'est quoi,
non,
les critères?
Il a été beaucoup critiqué aussi pour ça, par rapport à ses boulettes.
Tu as dit 25 erreurs ou je sais pas quoi, mais c'est quoi le critère d'une erreur?
Ça amène un tir ou ça amène un...
Oui, mais qu'est-ce que c'est une erreur? Qui décide à un moment donné que ça a été une erreur ou pas une erreur?
Une erreur de gardien, c'est assez objectif. Lionel, on en a un parmi nous, on va se tourner vers Lionel. Lionel, une erreur de gardien, c'est quand même assez objectif. Quand on relâche un ballon, quand on sort pas au bon moment.
Bah, il sait pas, Lionel, il en faisait jamais.
C'est vrai.
Disons que c'est jamais, non, c'est pas trop objectif parce que le gardien, comme disait Willy, ça se voit tout de suite, quoi. L'erreur, tu la payes cash. Après, il faut relativiser, c'est que, il fait rarement quand même des erreurs qui te coûtent des points. Par exemple, l'erreur du mondial, il va l'avoir dans sa tête toute sa vie, Hugo. Et je crois, en plus, enfin moi je pense, j'en reste persuadé, que s'il n'avait pas fait cette erreur, il aurait été gardien du mondial.
Ouais.
Mais quand tu fais une erreur comme ça, même si tu gagnes comme la France a gagné, tu peux pas mettre le mec numéro 1 du mondial, c'est pas possible. Et donc voilà, tout de suite il les paye cash. Au-delà de son image, moi je trouve que c'est un super gardien. J'étais assez d'accord avec tout ce qu'a dit Willy. Après il est peut-être un peu trop, voilà, c'est pas le mec qui fait de vagues, c'est pas le mec qui va faire parler de lui sur les réseaux, sur ou très
rarement. Mais je pense que les Courtois et les Derrière non plus, hein.
C'est pas les mecs qui font parler d'eux sur les réseaux ou quoi.
Ouais, mais
je pense que c'est ce qui dégage. J'ai l'impression
moi, c'est sa personnalité.
Voilà, ouais, parfois il est un peu trop, on va dire, peut-être introverti.
Introverti, ouais, voilà. Et en plus, il est capitaine.
Courtois, alors c'est peut-être pas dans ce qui dégage, mais quand il parle, Courtois, moi j'ai beaucoup de mal avec Courtois dans ses interviews. J'ai l'impression que c'est le meilleur entraîneur, c'est le meilleur gardien du monde de tous les temps. Pour moi, Courtois, il a le cigare. Je suis désolé.
Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, mais on en parle parce que justement, il a mal parlé des Français. Ça a été l'un des premiers à prendre position par rapport au jeu des Français quand ils ont perdu contre la France. C'est Hugo ne fait pas ça. Hugo ne fait pas ces vagues-là.
Oui, il est presque trop lisse, quoi. Presque.
Bah, c'est ça, mais je trouve qu'il fait vraiment preuve de beaucoup d'humilité, en fait, ce gardien. Et c'est peut-être ce qui lui dessert. Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire s'il était peut-être un peu plus expressif. Mais je me dis qu'à un moment donné, si le gars, il est capitaine de l'équipe de France, il est capitaine de Tottenham, c'est aussi parce qu'il doit aussi avoir des valeurs. Il doit transmettre quelque chose dans le vestiaire parce qu'il n'en serait pas là. Alors oui, effectivement, moi, j'ai envie de voir plutôt le verre à moitié plein. Parce que j'ai envie de dire que c'est vrai qu'il fait des boulettes, mais quand on regarde l'ensemble de sa carrière, je le trouve plutôt quand même régulier. Et c'est vrai que ça vient parfois entacher. Et ce qu'on lui demande, c'est il lui manquait des titres. Et justement cette Coupe du Monde, et ben il a été décisif. Et je pense qu'on peut pas gagner des grandes compétitions quand on n'a pas un grand gardien.
Exactement.
Et là, on voit aussi, si aujourd'hui Tottenham se hisse en finale, c'est aussi parce qu'il a été décisif à des moments. Je pense au pénalty d'Aguero. Il y a aussi des arrêts décisifs face à Dortmund. Voilà, il est important. Il y a un arrêt face à l'Ajax. Et je pense que il est pas aussi bien reconnu qu'il devrait l'être.
Je pense que pour continuer à ce que tu dis, demain, c'est hyper important pour lui aussi. Justement pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, qu'il fasse une finale, s'il la gagne, tant mieux, et s'il est décisif.
Ouais, mais normalement, on devrait pas en arriver là. Normalement, on devrait déjà dire oui, Lloris, il fait partie des meilleurs, sans avoir à attendre le match.
Ouais, mais tu sais, peut-être qu'on le dit pas parce qu'il est français aussi.
Je pense pas.
Moi, j'ai envie de le dire.
C'est juste qu'il est pas bling-bling, il est pas dans les réseaux sociaux à montrer sa vie, à montrer son chien, à montrer son. Voilà, il a une couleur de cheveux normale. Il a une barbe normale, il est normal, il conduit pas une voiture
fluo. C'est un bon
genre. Est-ce que ça ne le sert pas d'être à Tottenham, même si aujourd'hui ils sont en finale, contrairement aux autres qui sont, je sais pas, au Real, à Chelsea,
Barcelone, tout ça.
C'est
un peu une surprise qu'ils soient en finale.
Tottenham, c'est sûr, Tottenham fait peut-être pas partie du top 6 quand tu réfléchis au foot, mais c'est Lloris. Lloris, il a fait des choix de stabilité parce qu'il a besoin aussi de se sentir épanoui dans ce qu'il fait.
Il se sent épanoui à Tottenham. Avec la venue de Pochettino, hein, parce qu'il raconte qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé quand Pochettino est arrivé à Tottenham. Déjà, il lui a laissé le brassard de capitaine et ça lui a aussi.
Tu vas pas écouter ce que j'ai dit tout à l'heure, François.
Pardon.
Tu vas pas écouter ce que j'ai dit.
Je dois t'avouer que j'écoute pas.
Tu vas pas écouté tout à l'heure. Ça devait être sur énergie quand j'ai parlé de Pochettino.
Mais non.
Que j'ai dit que c'était le plus important à Tottenham. Voilà.
C'était pour confirmer. Non, mais c'est vrai que il a eu, à un moment donné, il s'est posé la question s'il fallait pas qu'il parte. Et finalement, il est resté parce que Pochettino aussi, il a été convaincu par cet homme et par cet entraîneur.
Lionel, est-ce que tu penses toi aussi que Lloris est peut-être un peu sous-coté, comme le disait Rio à l'instant, qu'on n'a pas la perception totale de son talent?
Oui, bien évidemment. Bien évidemment, il est sous-coté. Moi, je dirais parce qu'il est français, parce que pour toutes les raisons qui viennent d'être invoquées, en France, on a quand même un très grand gardien. Pourquoi je dis très grand gardien? Parce que c'est un gardien, Willy en a parlé tout à l'heure, qui est canardé. Et il est présent quand il est canardé, mais aussi il est présent quand il n'a que un ou deux arrêts à faire dans le match et il est décisif. Et ça, c'est permis à très peu de gardiens et surtout au plus haut niveau, que ce soit en Coupe du Monde ou avec les Spurs. Donc là, il montre tout l'étalage de son,
son talent. La seule chose qu'on aimerait, c'est qu'il se lâche un petit peu quand même, Hugo, de temps en temps.
C'est pas ça.
Après la finale de la Coupe du Monde, on a l'impression qu'il a dit
c'est pas lui, maintenant le plus important, c'est que je me repose
et que je recommence la saison derrière.
Il a raison, Lionel. Il est comme ça.
Ouais, mais c'est pas lui. On va pas le changer.
Non,
mais je te comprends. C'est vrai que
de temps en temps, un petit peu de.
Ouais, c'est rare d'avoir des gardiens comme ça.
Mais
en Angleterre,
là, quand il
est
peut-être un peu trop lâché.
Mais tu sais comme il est. Giroud, c'est toujours la faute à Giroud.
Tu sais, c'est la faute. Bon, ça vient je pense déjà de sa nature, mais aussi il a eu un maître qui l'a forgé, un mec comme Joël Batz qui n'a jamais fait de vague non plus.
C'est vrai aussi.
Et il est à l'image de Joe. Joe était comme ça. C'était des mecs qui voilà, faisaient le taf dans l'ombre et tout. Mais alors, quand il fallait sortir à la lumière, au moment opportun, ils étaient toujours là. Et ça, c'est des grands messieurs.
On accueille Romain, qui est avec nous, qui a composé le 32-16. Salut Romain.
Salut à tous.
Bonsoir Romain.
Salut Romain.
On t'écoute, bienvenue sur RMC Romain.
Bah écoutez, moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. C'est un gardien top gardien mondial. Hein. Sans sa bourde en finale, vous l'avez déjà dit, il est le meilleur gardien. Moi je l'ai suivi un peu, je suis supporter niçois, donc je le suis un peu depuis le début. Il n'y a absolument rien à dire. Il a gravi les échelons tout à fait logiquement, avec beaucoup d'introversion. Hein. C'est pas quelqu'un qui râle beaucoup, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui fait le taf. Hein. Tout simplement. Après, moi, je vois vous. Pour moi, il y a un truc qui m'a dans sa carrière, un truc qui m'a, j'allais dire choqué, mais c'est pas le mot. Il jouait à Nice. Il perd sa maman, je crois, un vendredi soir. Mmh. Et le dimanche soir, on jouait le Paris Saint-Germain. Il avait fait un match absolument fabuleux. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même peu de monde qui peuvent faire ce genre de performance en ayant eu un coup dur, extrêmement dur dans sa vie comme ça. Voilà qui il est, je pense. Quelqu'un de très simple. À Nice, il était tout le temps très proche des supporters, tout le temps un petit mot. Écoutez, moi j'espère le voir encore en équipe de France pendant des années et des années. Et je pense que si Tottenham en est là à l'heure actuelle, parce qu'en France on parle beaucoup de ses bourdes, mais on parle pas des matchs exceptionnels qu'il fait avec Tottenham.
Oh Romain, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que on est quand même le microcosme du football. Je veux pas parler de tous ceux qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, mais dans le microcosme du foot quand même, on est quand même tous d'accord pour dire que Lloris, on est unanime. Non. On est unanime pour dire que Lloris c'est du top niveau, que Lloris c'est surtout de la longévité, parce que ça fait pas que 2-3 ans qu'il est bon, Hugo. C'est il a parlé de Nice, mais il a été très bon à Lyon. Oui. Pardon.
Il a eu des hauts et des bas quand même. Il a eu des périodes où il était vraiment, il passait à travers et tout s'enchaînait mal. Mais c'est là, et après c'est là où je te rejoins, c'est-à-dire que tout le monde en a, tous les plus grands joueurs ont ça dans leur carrière, mais lui il sait rebondir.
Mais tu vois, par exemple, les débats, Lionel, ils sont arrivés pour moi deux fois, juste avant le championnat d'Europe 2016 et juste avant la Coupe du Monde de 2018. Oui. Pourquoi? Parce que dans les matchs de préparation, il était moyen, on va dire. Mais dès qu'il est rentré dans les compétitions, que ça soit le championnat d'Europe, si on va en finale, c'est peut-être le plus grand artisan du fait d'aller en finale au championnat d'Europe. Et bien sûr, si on gagne la Coupe du Monde en 2018, c'est aussi un très très grand artisan.
Willy, est-ce qu'il faut, pour sa reconnaissance, pour l'image que les supporters de Tottenham, mais aussi le public français, ont de lui, est-ce qu'il faut que Hugo Lloris s'en aille de Tottenham dans un club?
Ah non, c'est pas la question.
Ça changera pas.
Ça changera rien pour vous.
Mais c'est pas la question.
S'il était gardien de Barcelone, gardien du Real, bah,
on va dire si demain Tottenham il gagne la Champions League, bah, en théorie il peut dire attendez, moi je joue pour le plus grand club d'Europe.
Ça sera un épiphénomène. Le Tottenham deviendra pas pour autant le plus grand club d'Europe après avoir gagné la Ligue des Champions demain si ça arrive.
Ouais, mais alors c'est qui les plus
le Barça, le Bayern, la Juve.
Dans ce que dit Louis, je trouve c'est que est-ce que
tu vois le Bayern. Alors en termes de culture,
je dirais après.
En termes de culture, tu parles du Bayern, je suis obligé.
Oui.
Mais c'est vrai que culturellement parlant, j'aurais adoré voir Lloris aussi au Bayern.
Oui, il a le profil.
Justement, alors il a peut-être le profil du Bayern. Mais est-ce qu'il a le profil pour les équipes comme Barcelone, par exemple, où on demande aux gardiens de jouer au pied? Le jeu au pied du Golori, c'est quand même pas son point fort.
Barcelone, c'est pas amélioré. Mais aujourd'hui, on demande à un gardien qui est aussi bon au pied que sur sa ligne. Mais c'est le seul club où vraiment ils insistent. Et peut-être Manchester City aussi.
Beaucoup. Hein.
Après, quand tu vois Courtois à Madrid, je veux dire, jeu au pied, ça fait.
T'as raison.
Même le jeu humain.
54.
Non, mais même Ederson, c'est vrai, à City, qui a un très bon jeu au pied.
Oui, mais non, mais bah voilà. Alors par exemple, à City, on peut prendre l'exemple. C'est un gardien qui a un super jeu au pied, mais par contre en qualité de gardien sur sa ligne, sur l'anticipation, moi je trouve qu'il fait pas partie des 10 meilleurs, loin de là. Mais par contre il a un super jeu au pied, mais c'est tout. Ederson, c'est ça son nom.
Ouais,
moi je le mets pas dans les 10 premiers.
Moi je trouve que t'es dur, hein.
C'est vrai,
franchement. Ah ouais,
bah je peux t'en citer 10 très vite, hein.
Bah,
mais il va dire que c'est parce qu'il a un tatouage, tout ça.
Dans les 10, Willy, Ederson. Franchement, Ederson, tu le mets dans les 10.
Tu le mets dans les 10.
Ah ouais. Bah,
allez, après, on a du temps aujourd'hui. Qu'on en parle.
Vas-y, oui.
Alors, tiens, regarde.
Faisons
des Derea.
Oblak.
Ter Stegen. T'es d'accord pour l'instant?
Ouais, bien sûr.
Allison, oui. Lloris.
5.
Derea.
Voilà.
Et Courtois, tu le mets pas.
Pardon?
Courtois.
Allez, attends, mais on a dit 10, là,
attends,
on est sur 5.
Laisse-moi avancer. Attends, il y a beaucoup de clubs.
Ouais, mais t'es Neuer. Ouais. Encore aujourd'hui.
Oui.
Même dans 10 ans. Sepp Maier. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais il y a des super gardiens.
Hey, on va y arriver à 10,
tranquillement. Non, on va y
après,
arriver.
T'as un autre. T'as Handanovic aussi de l'Inter.
Ah, exactement. Aide-moi. Donnarumma.
Non, mais on les aura pas.
Non, mais Donnarumma.
Je veux bien t'aider, mais on n'aura pas les 10.
Attends, en Espagne, on va bien trouver quelqu'un. Keylor Navas, 3 Ligues des Champions. Bah voilà, on est à 9. Ouais, je sais pas, voilà, il est 10e si vous voulez.
Je joue plus. D'accord. Bouffon, tu le mets.
Ah non.
Quand même pas.
Ouais. Non, mais non. Pour
Bouffon, peut-être pas. Réola, non plus. Non. Mais.
Trapp,
belle saison avec Francfort.
Il a fait une très belle saison
avec Francfort.
Mais 10 quand même.
Je n'irai pas jusque là.
Non, n'exagérons rien. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous, supporter niçois qui a composé le 32-16.
Merci Romain.
Salut Romain. À très vite sur RMC. On reparle tout à l'heure évidemment dans le buzzer, j'imagine, de cette finale de la Ligue des Champions. On rappelle le rendez-vous demain 21h entre Liverpool et Tottenham en direct du Metropolitano de Madrid. Ça sera à suivre en direct en intégralité sur RMC. 19h28. Laure, c'est à toi dans une seconde.
C'est du Brésil. Brésil. Samba.
Samba. Laure.
Donc justement pour mettre au parfum, on a J-7 avant la Coupe du Monde féminine et rappelez que ce soir la France joue contre la Chine. Elle ouvrira cette compétition face à la Corée du Sud, donc dernier match de préparation, un adversaire qui a été choisi pas de façon anodine de la part de Corinne Diacre, parce que le football asiatique a ses caractéristiques qui lui seront propres, beaucoup de rigueur, de la discipline tactique et surtout aussi de la maîtrise collective. Ça permettra de faire les derniers réglages et surtout de pallier aussi peut-être à certaines absences, parce qu'il y a des joueuses qui sont importantes dans cette équipe et qui sont déjà forfaits pour ce dernier match de préparation.
Le sommeur,
Amel Majri, qui sont quand même des cadres de cette équipe, donc c'est aussi l'occasion de revoir quelques automatismes. On ne sait jamais, elles sont peut-être pas prêtes pour le premier match. Et puis surtout, ce soir, c'est aussi gagner en efficacité, parce que le match face à la Thaïlande, voilà, il y a eu beaucoup d'occasions, mais ça a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Et puis voir aussi un petit peu l'état de fraîcheur des joueuses, avec une grosse préparation qui a été faite ces dernières semaines, et les Lyonnaises qui ont eu aussi une longue saison. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a certaines joueuses qui le payent un petit peu là ces derniers jours.
Tu es confiante ?
Je suis assez confiante, mais en espérant qu'en fait l'ensemble des joueuses soient disponibles, parce qu'il y a des joueuses qui sont quand même importantes dans cette équipe, même s'il y a des jeunes joueuses qui commencent à prendre de l'importance dans cette équipe. Je pense à des joueuses comme Khadidia Toudiani qui commence à s'asseoir en tant que titulaire, mais je pense que cette équipe de France peut aller loin, parce que on va revenir à un truc assez bateau en disant le groupe vit bien, mais c'est vrai que je pense que contrairement à d'autres éditions, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas tellement de clans dans cette équipe, et c'est peut-être ce qui avait péché à certains moments sur l'entente par rapport aux joueuses.
Par contre, alors on va parler de plusieurs déclics dans l'histoire du foot féminin, de ce fameux match à Saint-Etienne avec Corinne Diacre, ouais, voilà, qui marque. Oui. On va parler aussi du super parcours à la Coupe du Monde en Allemagne,
au Canada.
Moi, quand je regarde l'équipe de France, en plus avec une ossature lyonnaise, Lyon qui truste les titres, pas que nationaux mais aussi en Europe. Moi, il y a qu'une seule chose qui m'inquiète, c'est que c'est la première fois où la pression sera aussi forte. Parce que jusqu'à présent, le foot féminin s'est développé, je dirais, de manière normale, avec une ou deux accélérations à un moment donné. Mais là, on sent vraiment que c'est le moment. Qu'il faut écrire l'histoire.
C'est un virage.
Et que ça soit le foot masculin ou le foot féminin, c'est la même chose. À un moment donné, pour écrire l'histoire, il faut gagner.
Ah, mais bien évidemment.
Il y a eu beaucoup de déceptions. Les dernières années, on va parler du championnat d'Europe en Suède, par exemple, où l'attente était forte et que c'était une grande déception.
Même celui aux Pays-Bas récemment. Hein.
Exactement. Ouais, ouais. Et là, c'est devant les yeux c'est devant nos yeux, c'est chez nous. Et là, il y a une vraie obligation.
Ouais, mais je pense que justement, ça sera un atout supplémentaire. Alors, je pense que pour les joueuses expérimentées, il n'y aura pas de problème parce qu'elles ont plutôt l'habitude de ce genre de compétition. Il y en a qui ont vécu déjà des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe. Pour les plus jeunes, je suis un peu plus sceptique, effectivement, sur ce, par exemple, ce premier match d'ouverture où il y aura un Parc des Princes qui va afficher complet. Sur l'état émotionnel, je pense qu'il va falloir faire abstraction de tout ça et vite rentrer dans cette compétition, parce que c'est vrai que sur les compétitions précédentes, moi je le vois pas comme ça. Moi j'ai fait partie de cette campagne en 2011 où c'est vrai, on était outsider et finalement c'est peut-être ce qui a fait notre force à ce moment-là, parce qu'en fait personne nous attendait. Donc on prenait ça vraiment du bon côté et c'est ce qui avait fait qu'on s'était hissé jusqu'en demi-finale un peu contre qu'on avait déjoué un petit peu tous les pronostics. Aujourd'hui, c'est vrai que la France s'affiche un peu comme l'une des équipes favorites et c'est un statut que tu dois faire valoir, et de ce côté-là, je pense que c'est un atout en tout cas important d'avoir les Lyonnaises et l'expérience des Lyonnaises à l'intérieur, et puis avoir certains clubs comme des filles qui ont pu jouer aussi en Coupe d'Europe, ça permet d'emmagasiner aussi de l'expérience.
J'ai une question. Une toute petite question, puisqu'on parlait d'Hugo Lloris. Est-ce que Sarah Bouhadi fait partie du top 5 des meilleures gardiennes du monde?
Alors, franchement.
Puisque c'est un des débats qu'il y a régulièrement en équipe de France féminine, le poste de gardien.
C'est vrai que, comme Hugo Lloris, elle est capable de te faire la boulette du siècle. Mais franchement, pour l'avoir côtoyée des années, c'est l'une des meilleures gardiennes.
Non, mais ça fait 10 ans qu'elle est titulaire. Donc, il y a deux explications. Soit c'est la meilleure. Soit il y a personne. Non mais c'est vrai.
Il y a eu quand même des grandes gardiennes aussi sur la scène européenne. Je pense notamment les Allemandes ont souvent des très bonnes gardiennes.
Oui, mais en parlant de Sarah, ça fait 10 ans qu'elle est titulaire.
Oui.
Donc à un moment donné, c'est soit elle est meilleure que les autres, et elle est meilleure que les autres. Parce qu'il y a eu plusieurs sélectionneurs.
On va parler de la gestion émotionnelle aussi. Ouais, je pense qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup de sérénité, mais de confiance. Mais finalement, je pense aussi à un moment donné, il y a quand même quelques doutes qui peuvent s'installer dans sa tête.
Parce que ça soit Bergerot, que ça soit Echouafny, que ça soit
Bruno Bini avant
et Coco Diacre maintenant. Tout le monde.
Coco.
On s'est côtoyé dans le milieu du
foot.
On s'est côtoyé à la fédération. On a un passé commun.
Ils ont fait confiance à Sarah Bouhadi.
Ils ont tous fait confiance à Sarah. Donc on se dit, c'est la meilleure, tout simplement.
En un petit mot, Willy, Rio, vous allez tous les deux vous passionner pour cette Coupe du Monde qui s'ouvre dans une semaine.
Oui.
Oui.
Ah bah oui. On n'a pas le choix. C'est un événement mondial. Non mais attends, je me fais pas dire ce que je veux pas dire. Ne commence pas. J'ai dit on n'a pas le choix dans le sens où c'est un événement mondial qui se passe chez nous. On a de la chance d'avoir une équipe de France avec de grandes qualités qui peut prétendre au titre. Forcément qu'on va s'y intéresser, qu'on va même faire plus que s'y intéresser.
France-Chine, c'est ce soir à 21h au stade du Vauchel à Créteil. Ça sera à suivre évidemment sur RMC dans le RMC Football Show. Dernier match de préparation avant le coup d'envoi du mondial vendredi prochain au Parc des Princes face à la Corée du Sud. Ça aussi, ça sera à suivre sur RMC avec Jeannot Séguier au commentaire pour les matchs des Bleus. 19h25, petit détour par Roland Garros. Eric Salio, où en sont nos Français? Sont-ils encore là déjà?
On en a perdu un à l'instant avec peut-être des larmes pour Nicolas Mahut qui a peut-être disputé son dernier match à Roland, on ne sait pas. Il a été battu en 4-7 par Leonardo Mayer et son petit est venu évidemment sur le court très déçu le petit, mais Nicolas Mahut a fait un match énorme. C'est passé pour Rafa Nadal en 4 manches, 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 face à David Goffin, mais l'affaire lui a pris quand même 2h49 et puis suspense à le temps sur le 14. Corentin Moutet se bat pour rester en vie puisqu'il est mené 5-4 et 30-0 malheureusement par l'Argentin Juan Ignacio Londero. Le Français, le jeune Parisien est à 2 points de l'élimination, mais lui aussi aura fait un match énorme sur cette cuvette, ce chaudron du 14.
Merci Eric Salio, merci Laure, merci Rio, merci Lionel d'avoir été dans Ici c'est Willy. Ce soir, François, Willy, nous on va se retrouver dans un instant pour le carré VIP. On va parler du mercato du Real avec Fred Hermel, 19h26 sur RMC, à tout de suite.
RMC, 18h20, Ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h30, toujours dans Ici c'est Willy, jusqu'à 20h sur RMC, avec Louis Amar et François Pinet. Louis, place au Tour d'Europe.
Absolument.
En Espagne.
On va partir en Espagne. Dans quelques minutes, il y aura également le Focus Ligue 1 où nous nous intéresserons à la succession de Jean-Louis Gasset à Saint-Etienne. Vous allez voir, ça se précise. On a des infos ce soir. Et puis dans un quart d'heure, François, le buzzer Pinet.
Alors, un buzzer pour Willy, là. Pour le coup, version allemande. Il y aura du Jérôme Boateng dedans, du Mesut Özil Et puis aussi un petit striptease.
Vas-y, envoie.
Pour le buzzer.
Fais ça bien.
Bon, ça sera pas mon striptease, hein, mais je te raconterai une histoire de
ça. Ah, bah, j'en veux pas, alors c'est pas toi, j'en veux pas.
Bah, non, quand même.
Bah, en attendant.
Non, parce que je suis incapable de faire un striptease.
C'est vrai?
Ah, ouais, non.
Pourquoi?
Bah, parce que je sais pas, je suis maladroit, enfin, ça serait.
Anaïs, t'en fais jamais à la maison. Tu lui en fais jamais à la maison.
Moi.
Non, tu lui en fais jamais à la maison.
Attends, on cite les prénoms, y a pas de problème.
Oui, c'est ça, vraiment.
Pourquoi pas?
Tu lui en fais jamais.
Il y a plus de
filtre.
Un striptease, faut prendre le temps pour que ça soit bien.
C'est vrai?
Ça en 2 minutes. Non.
Ah bon?
Bon, si ça vous ennuie pas, on part en Espagne.
Ouais, allons-y.
RMC. Le carré VIP de Willy.
L'Espagne où l'on retrouve Fred Hermel. Salut Fredo.
Enfin l'Espagne, là où je me trouve, il y a que des Anglais. Hein. Hola chicos.
Ah oui. En direct du Metropolitano où se déroulera demain la finale de la Ligue des Champions. Mais c'est pour parler du Real que tu es avec nous, Fred, ce soir, et pour parler du mercato du Real qui s'accélère.
Oui, ça s'accélère parce que il est bien évident que ce que je vous annonçais déjà depuis un moment sur RMC, qu'après la finale de la Ligue Europa, rapidement serait officielle l'arrivée d'Eden Hazard au Real Madrid, c'est pour les prochains jours. Voilà, à Madrid, on pense que la présentation pourrait même se faire dès lundi. Et si c'est pas lundi, ça sera après les matchs internationaux de la Belgique, puisque Eden Hazard, qui est en train de passer quelques jours de repos à Marbella, voilà, il aime bien le sud de l'Espagne, il fait beau, va rejoindre la mise au vert de l'équipe belge mardi. Donc le premier transfert sera Hazard, il n'y a absolument aucun doute. Jovic, le joueur serbe, l'attaquant serbe devrait être le suivant.
De
et
Francfort,
bien entendu, Ferland Mendy qui intéresse de plus en plus du côté du Real. Et on se dit du côté de Madrid que ce sera rapidement bouclé ce dossier. En attendant, et pour vous finir cet éventail, celui que tout le monde attend ici à Madrid, mais on sait que ça prendra de nombreuses semaines, voire 3 mois, bien entendu, Kylian Mbappé, le joueur le plus désiré par tout le monde à Madrid.
Willy, qu'est-ce que tu dis de tout ça?
Bah, je dis que quand ils arrivent plus à gagner une Ligue des Champions, bah ils ont trouvé le moyen, c'est de dépenser 800 milliards et puis voilà, c'est.
Alors Hazard, 120 millions, c'est
cadeau,
priori,
mais c'est cadeau.
120 millions, c'est cadeau quand même.
Ouais, cadeau, 120 millions.
C'est cadeau pour Eden Hazard.
Non mais oui ou non, Fred,
non,
tu penses quoi?
120 millions, je pense que ça sera plutôt autour de 100 millions voire en dessous de 100 millions parce qu'il n'a plus qu'un an de contrat.
Ouais, mais
vous
Chelsea,
savez, les clubs anglais ils sont capables de mettre 80 ou 90 millions sur un gardien, pourquoi pas mettre 80 ou 90 millions sur un joueur extraordinaire comme Eden Hazard pour le Real Madrid. Le Real Madrid a gagné beaucoup d'argent ces dernières années en vendant des joueurs. Le Real Madrid a des caisses qui rebordent d'argent, donc il y a une révolution à faire puisque là où je me trouve, là sur la pelouse du Wanda Metropolitano, il n'y aura pas le Real ce soir pour la première fois depuis 3 ans, et donc il est normal qu'il dépense. Ce club est bien géré, ce club a gagné beaucoup d'argent ces dernières années avec le marketing, avec aussi les droits télé, puisque en faisant 4 finales, donc 4 victoires lors des 5 dernières années et une demi-finale Ligue des Champions, y a beaucoup d'argent qui sont rentrés dans les caisses. Donc à partir du moment où ils ne gagnent plus, c'est normal de dépenser. Il y a vraiment une fin de cycle, des joueurs importants qui vont partir, donc c'est normal de les remplacer par des joueurs top.
Fred,
personne ne peut dire qu'Hazard n'est pas un joueur parfait pour le Real Madrid.
Ah non, mais on dit pas ça. Mais après, moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, la gestion. Il faut quand même dire que là, tu dis qu'ils ont vendu pas mal de joueurs ces dernières années, donc les caisses sont pleines. C'est une chose, mais quand même, il faut quand même aussi dire que le Real, pendant des années, les caisses étaient vides et ils achetaient quand même. Donc voilà, c'est.
Oui, mais là, tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Ouais, oui, mais je suis d'accord.
C'était avant les années 2000. Le Real avait une dette terrible avant 2000. Après l'arrivée du président Pérez, la vente des terrains d'entraînement et puis la DNCG installée il y a 6-7 ans en Espagne par Javier Tebas fait qu'aujourd'hui les clubs espagnols sont fins financièrement, à commencer par le Real Madrid et le Barça aussi, hein, qui sont les deux clubs les plus riches du monde.
Ouais, et après
donc ils ont de l'argent, on va pas leur reprocher.
Ah mais non, mais ça on reproche pas.
S'il vous plaît, Fred, Willy, on s'interrompt une seconde, on retourne à Roland Garros. Eric Salio.
Ouais, pour une balle de match pour Juan Ignacio Londero, la quatrième face à un Corentin Moutet diabolique qui essaie de retarder l'échéance. Il donne tout ce qu'il a, les dernières forces, et le cours 14 est vraiment en ébullition. L'atmosphère est volcanique, et Corentin Moutet, donc, il va sauver, j'en suis convaincu, cette quatrième balle de match face à Londero qui a du mal à conclure. Et malheureusement, service gagnant de l'Argentin qui s'affale sur la terre battue. Il a cru qu'il n'y arriverait jamais, et finalement Londero donc rejoint son copain Leonardo Mayer en huitième de finale. Deux Argentins en l'espace d'une demi-heure qui accèdent au huitième, et ils auront des matchs fantastiques à jouer. Mayer jouera Federer et Londero jouera Nadal.
Les Argentins tombeurs de nos Français. Merci oui. Eric Salio. Oui. On revient au Real, Willy, et Fred Hermel qui est avec nous dans le Carré VIP.
Non, c'est le Real. Moi, la seule chose que je reproche un petit peu à ce club, c'est un club qui c'est un des clubs qui forme le plus grand nombre de joueurs, on va dire, sur la scène européenne, mais ils en gardent pas beaucoup. Pourquoi ils arrivent pas vraiment à former eux-mêmes leur
Reguilón là, s'ils prennent Ferland Mendy, le jeune Reguilón, il va partir.
Je sais pas, Fred.
Oui, parce que Zizou considère que Reguilón n'est pas prêt. Ils vont faire comme avec Carvajal. Carvajal formé au club, il a été prêté pendant un an au Bayer Leverkusen, histoire d'avoir un peu de temps de jeu, et il est revenu. Aujourd'hui, il est titulaire incontournable à droite. Ramos, il arrive au Real, il avait 18 ans. C'est quand même un club. Casemiro, il a été aussi formé au club. Lucas Vazquez, il était formé au club. Enfin, c'est quand même un club où il y a beaucoup de canteranos, c'est-à-dire de gens joués au club, formés au club. Mais c'est tellement dur. Ce qui est arrivé au Barça avec la génération Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, c'est impossible à refaire. Ils ont été capables de mettre un jour d'aligner 11 joueurs formés au centre de formation. C'est quasiment impossible. C'était une génération spontanée extraordinaire. Donc, je trouve que par rapport, notamment au club que je vois là maintenant, qui sont en train de s'entraîner au Wanda, au club anglais, il y a beaucoup d'Espagnols et il y a beaucoup de joueurs formés au club en Espagne. D'ailleurs, la Liga est le championnat où il y a le plus de joueurs nationaux en première division. Des 5 grands championnats européens. Il y a même plus de joueurs espagnols qui jouent en première division en Espagne que de joueurs français. Donc alors les Anglais, n'en parlons pas. Donc c'est pour dire que je trouve que le procès que tu fais, Willy, est un petit peu injuste.
Non, c'est juste pour te dire, voilà, parce que tu me parles Casemiro, c'est il est formé au Brésil. Ramos, il est formé à Séville. C'est juste, voilà, ils en ont pas autant qu'on aimerait qu'ils en aient, voilà.
Merci beaucoup,
ouais,
Fred.
Comparé aux autres, ils en ont plus que les autres. Enfin,
on aura l'occasion d'en parler longuement,
Fred. J'arrive demain, Fred. Prépare la bière.
Exactement. T'en parlera avec Willy demain.
Eden Hazard, il n'a pas été formé au Real.
Merci beaucoup, Fred Hermel, d'avoir été avec nous dans le Carré VIP. Et puis, ça aussi, ça doit faire partie du Carré VIP. C'est un rendez-vous exceptionnel qu'on vous donne ce soir, 21h à la télé sur RMC Sport 1. Un long document de 120 minutes. Ça s'appelle J'ai rencontré un monstre. Hommage aux deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, autour de témoignages d'une cinquantaine d'adversaires qui racontent le calvaire que c'est d'essayer de les arrêter. C'est ce soir à 21h sur RMC Sport 1, donc vous êtes gentils, vous annulez votre dîner. Et puis sachez aussi que toujours sur RMC Sport 1, toute la journée de demain sera consacrée à la finale de la Ligue des Champions, évidemment, avec des reportages, des entretiens exclusifs depuis le Metropolitano, tout cela dès 10h du matin. Et puis ensuite, grande soirée, avant-match à partir de 18h et la rencontre à 21h. 19h39, nous, on revient en France, en Ligue 1.
RMC. Vous le voyez, la France est toute rouge. Logique, c'est vendredi.
Le Focus Ligue 1.
Pour l'instant, Willy, il y a deux clubs sans entraîneur. Le premier, c'est Amiens, qui s'est séparé de Christophe Pélissier, qui a rejoint Lorient. Et le deuxième, c'est Saint-Étienne. On a des infos toutes fraîches qui nous sont arrivées ce soir depuis le Rhône, grâce à notre correspondant Édouard Jay, qui nous informe que Ghislain Printemps devrait bien être le successeur de Jean-Louis Gasset et prendre donc la suite de celui dont il était l'adjoint. Il a reçu la visite, d'après notre correspondant Édouard Jay, de ses présidents, Roland Romeyer et Bernard Caillazo, aujourd'hui dans l'Hérault où Printemps est en vacances. Et ces trois-là ont jeté les bases de la poursuite de leur collaboration, alors qu'on avait vu éclore d'autres noms dans la presse, notamment ceux de Claude Puel ou de Sabri Lamouchi. Si le choix de Printemps devait se confirmer, ce qui semble bien être la tendance ce soir, est-ce que ça serait, Willy, une bonne idée pour les Verts?
Je vois pas pourquoi ça serait une mauvaise idée. C'est un entraîneur qui connaît parfaitement l'effectif,
qui a pas d'expérience.
Ouais, il est entraîneur à Bastia, il a quand même
pas l'expérience d'un club qui a joué la Ligue Europa.
Ouais, bah écoute, il faut bien démarrer, même si c'est plus un petit jeune, Ghislain. Mais je crois que il a les épaules pour. Comme je dis, il connaît très bien les forces et les faiblesses de cette équipe-là. Maintenant, pour lui, sa problématique, et ça va être là son défi à lui, c'est il a passé là un an et demi à mettre beaucoup d'humains avec les joueurs, à les câliner un peu, mais là maintenant il va falloir qu'il prenne des décisions. Choix, ouais. Il va faire des choix et quand on fait des choix, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents. Bah ça va être là son défi, mais je vois pas pourquoi il y arriverait pas. Et moi je lui souhaite vraiment du fond du cœur d'y arriver.
Un truc qui a dû jouer, c'est effectivement certaines déclarations. Moi personnellement, je trouve ça un petit peu choquant. Par exemple, ce qu'a dit M. Villa quand il dit à un moment donné, je lis mon destin à Jean-Louis Gasset. Et puis quand Jean-Louis Gasset est parti, il a dit si c'est pas Ghislain Printemps, je demanderai à partir. Donc en fait, ce sont les joueurs qui ont décidé, ou en tout cas les cadres qui ont décidé que ce soit Ghislain Printemps.
C'est pour ça qu'on n'aura jamais Saint-Etienne en finale de Champions League, si c'est les joueurs qui décident.
Non, mais tu vois, il y a un peu de ça.
Ça a été maladroit.
Pour les dirigeants de prendre Printemps, justement, par rapport à ça.
Ouais, enfin, on sait très bien qu'il y avait quasiment une moitié de vestiaire qui voulait que Printemps reste. Pas qu'il parte, mais il y avait une moitié de vestiaire qui souhaitait le voir prendre la suite de Gasset. Il fait l'unanimité en tant que homme, mais on sait qu'il y avait quand même des réticents dans le vestiaire, certains joueurs, sur la capacité à Printemps à mener le projet. Mais il a la maison, et ben faut lui donner la chance. On sait jamais ce qui vient de l'extérieur, on sait toujours ce qu'on a à la maison, donc autant lui donner la chance à lui.
Toutes les infos sont à retrouver sur rmcsport.fr. Le détail des informations d'Edouard Jay, mais c'est quasiment sur le point d'être signé, donc entre Ghislain Printemps et les Verts Printemps, qui devrait être donc le nouvel entraîneur de Saint-Etienne. 19h42, tout de suite on parie.
Les paris RMC.
PMU, que les meilleurs gagnent.
Avec Christophe Payet en mode Ligue des Champions ce soir. Salut Christophe.
Salut Louis. Et salut Willy.
Salut Christophe. Ligue des Champions.
Quand tu nous parles de Ligue des Champions. Sinon, il n'y a pas de cravate derrière.
Toujours aussi beau, voilà.
Hein. Bien sûr.
Évidemment.
Alors, Tottenham Liverpool.
Oui.
En fait, si c'était un titre de film, ça serait un petit peu Le Poissard et les Miraculés. Le Poissard, c'est Klopp. Avec 6 finales perdues sur les 7 dernières disputées, ça fait quand même beaucoup. Et puis les Miraculés, tu en as parlé tout à l'heure François, ce sont les Spurs, avec ce but à la 85e au Nou Camp, avec le nul de l'Inter qui permet à Tottenham de se qualifier pour les 8e. Et puis après, il y a ce fameux but refusé grâce au VAR. Et puis ensuite, quand on a perdu 2-1 à la maison, 1-0 à la maison, qu'on est mené 2-0 à l'extérieur, et qu'on gagne 3-2 sur un triplé de Lucas, même si Willy Sagnol l'avait annoncé. Moi, je trouve que
c'est triplé du pied gauche. Il faut insister là-dessus. Du pied gauche.
Alors, je me suis aussi amusé à regarder, depuis l'histoire de la Ligue des Champions, depuis le début de la Ligue des Champions, combien d'équipes avaient perdu une finale et avaient rejoué l'année d'après. Mm-hmm. C'est arrivé 4 fois. Milan perd en 93, gagne en 94. La Juve perd en 97 et perd encore en 98. Et puis Valence qui perd en 2000 et qui repère contre le Bayern en 2001.
Ah tiens, ils ont perdu en 2001 Valence.
Mais contre qui,
le Bayern, énormissime. Énormissime.
Il y avait un petit arrière droit.
Un phénomène. Non, vite, non, faut pas exagérer.
J'ai essayé. Ah non, c'est celui à gauche qui allait vite, tu veux dire.
Alors du coup, ça nous arrange pas. Hein. J'aurais préféré que les 4 fois, l'équipe...
Oui, au final, elle veut rien dire, ta stat.
Non, mais il faut quand même le savoir.
C'est arrivé. Faut le savoir que ça veut rien dire, c'est vrai.
Ça arrive avec 4 fois.
C'est pas mal.
Il y a une stat qui veut dire quelque chose. Tottenham n'a gagné qu'un match sur les 10 dernières confrontations contre Liverpool.
Là, tu me parles.
Mais moi, je crois au miraculé.
Ouais, moi aussi.
Et je crois à la chance. Et je vous propose la prolongation à 3,30. Mais à la fin, c'est Tottenham qui lève le trophée à 2,45. Et puis le but de Lucas à 4,40 parce que c'est le symbole de cette réussite des Spurs.
Tout pareil avec le monsieur, sauf Lucas. Qu'est-ce que t'en penses, Willy?
Bah écoute, moi je suis entraîneur, donc la chance n'a rien à voir. Il y a pas de chance dans le foot. C'est que des causes et des conséquences. Donc moi je mettrai Liverpool et j'irai même plus loin avec 2 buts d'écart.
Wow. Et Liverpool, par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 3,20. C'est quasiment la même cote que la prolongation à 3.
Je me rapproche un peu de Willy. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que ces derniers temps, on voit quand même le favori qui s'impose en finale. Il y a une certaine logique. On l'a vu aussi cette semaine avec Chelsea qui était favori face à Arsenal. Quand même une différence d'effectifs. Donc je vois bien Liverpool.
Qui était favori entre Lens et Dijon?
Mais c'est pas une finale, c'est sur deux matchs, ça n'a rien à voir.
C'était le match d'hier, c'est pour ça que je t'en parle.
Ah oui. Bah oui,
mais c'est qui sait pas.
J'avais dit
qu'il a pas.
Non, mais ah bon, il y avait un match hier.
Mais j'avais dit par François parce que j'ai annoncé un nul.
Tu sais que j'ai regardé le match en pensant à toi parce que moi j'avais dit 1-0 et ça a bien tenu presque jusqu'au bout. Donc je vois bien Liverpool avec pourquoi pas pour faire monter la cote un but Firmino.
Allez, la cote ça donne quoi rapidement?
4,20 la victoire de Liverpool avec le but de Firmino.
Merci Christophe, toutes les cotes, tous les conseils de la Dream Team sur rmc-sport.fr.
Merci ouais. Christophe.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Roland Garros, Eric Salio, les matchs en cours.
Les matchs en cours, ça continue, ça, il y en a de partout. Sur le central, Stefanos Tsitsipas a débuté face à Krajinovic, il est mené 3-1. Et puis il y a une nouvelle polémique ici à Roland-Garros, je vais vous expliquer. Le match 3 sur le Langen a pris tellement de retard que les organisateurs ont décidé de déprogrammer le match entre Wawrinka et Dimitrov. Et quand les spectateurs du Langen ont appris ça, ils étaient fous furieux. Ils sont fous furieux actuellement. Au moment où je vous parle, il y a une bronca terrible dans le stade parce que les gens ne peuvent plus rentrer sur le court numéro 1 puisqu'il est il est rempli à ras-bord jusqu'à la gueule et ceux qui ont des billets du Langlais sont fous furieux. Ça va faire beaucoup de bruit encore cette histoire.
Merci Eric Salio. 19h46 dans un instant le buzzer Pinet dans Ici c'est Woody sur RMC.
À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr.
François, on est-on de ta question, Pinet?
Bah, ça a un petit peu évolué encore en faveur d'Hugo Lloris. Ça, je vous rappelle la question. Est-ce qu'il fait partie pour vous des 5 meilleurs gardiens du monde? C'est sur le compte Twitter d'RMC Sport. Vous pouvez encore voter. 73% de oui, il fait partie des 5 meilleurs gardiens du monde. 27% de non. Et il y a beaucoup de débats, effectivement, de gens qui s'écharpent un petit peu autour du cas d'Hugo Lloris. C'est quand même assez étonnant, mais il y a pas mal de gens qui disent, il fait des boulettes. Alors, il y a ceux qui disent, il fait trop de boulettes pour être dans les 5 gardiens. Il y en a d'autres qui citent les meilleurs. Ter Stegen, De Gea, Oblak, Neuer, Ederson, Alisson, Courtois. Il fait même pas partie de cette liste-là. Voilà, c'est ce que nous dit ces WAPAP. Et puis d'autres qui disent, il est quand même champion du monde. Là, il peut être champion d'Europe. Et c'est un peu grâce à lui, ces deux compétitions.
Et à ce sujet-là, j'ajoute la réflexion de Mika qui nous écrit sur Direct Studio, puisqu'on parlait tout à l'heure de la bourde d'Hugo Lloris en finale de la Coupe du Monde, qui lui a peut-être coûté le titre de meilleur gardien. Eh bien non. Merci Mika de nous le dire. Au Mondial, le meilleur gardien est désigné avant la finale.
Bravo.
Donc sa bourde.
Et c'était qui?
Non, on aurait bien
savoir. C'était qui le meilleur gardien à la Coupe du Monde?
Meilleur
gardien de la Coupe. C'était Courtois, il me semble.
C'était Courtois,
scandale.
Mais oui. Bon, il fait une grande Coupe du Monde, Courtois.
Alors, 1m97, il fait, non, c'est
non,
ça?
Mais c'est pas parce que tu l'aimes pas physiquement que.
Mais c'est pas que je l'aime pas physiquement, c'est que j'ai toujours pas supporté ce qu'il a dit après le match, voilà.
Ah oui, c'est ça.
Ah, j'ai toujours en travers de la gorge.
Franchouillard, ça.
Non,
c'était
non,
bien
pas du tout.
Pour toi, pour info qui a.
Non, mais je sais tout.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je m'échappe?
Pourquoi tu l'as dit? Parce que tu ne me fais pas confiance.
Ben oui, c'est vrai.
C'est moche, tout ça.
J'apprends, je plus jamais je ne mettrai en doute la parole. Willy, donc toi, Courtois, non, définitivement non.
Bien sûr.
Sur son talent, sur le joueur que c'est, tu n'aimes pas Courtois.
Il n'est pas devant le.
Mais non, mais je dis pas que j'aime pas Courtois. C'est un très bon gardien, c'est un excellent gardien. Mais Courtois fait aussi beaucoup d'erreurs. Cette année avec le Real, il a fait un paquet d'erreurs. Il est sur des matchs importants, notamment en Champions League. Donc voilà, moi Lloris, je le mets devant.
Allez, à tout de suite dans Ici c'est Willy.
RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. RMC, 18h-20h. Ici c'est Willy. Willy Sagnol.
Allez, 19h50, vous êtes dans les 10 dernières minutes d'Ici c'est Willy sur RMC. Avec le buzzer Piné, oui. Et je vais vous rappeler aussi au 32-16. C'est pas beau ça de rire de moi.
Non,
c'est pas beau de rire de moi.
Se passe hors antenne et on ne dira rien.
On n'a pas le droit d'arranger pour les morts qui verront.
C'est vrai. Voilà. Et alors,
t'as bien raison.
Très bien. Dans 10 minutes, vous retrouvez Christophe Cessieux qui lui bosse. Hein, pas d'apéro pour Christophe Cessieux. Il fait le RMC Football Show.
Il le fait pendant l'antenne.
Mais d'abord, c'est pas beau.
D'abord, ça bouge sur les bancs italiens. Mais il y a pas le nom de Willy Sagnol.
Moi, j'ai cherché. En Italie.
Ouais, en Italie, t'as pas la cote.
Ah, depuis 2006.
Ah oui, c'est ça.
Ah oui, c'est ça.
L'arrivée d'Antonio Conte à l'Inter, ça a été officialisé, on le savait, on vous l'avait dit d'ailleurs, dans Ici c'est Willy.
C'est rare, un ancien de la Juve qui va à l'Inter, ouais.
C'est pour ça que j'en parle. Parce que, ça crie à la trahison du côté des supporters de la Juve.
Il faut toujours trouver des choses.
Certains veulent que l'étoile, tu sais, une sorte de Hall of Fame dans le stade de la Juve, là où il y a les étoiles avec les grands noms. L'étoile d'Antonio Conte, ils veulent qu'elle disparaissent puisqu'il a signé chez l'ennemi interiste pour un salaire de 10 millions d'euros.
Je comprends les supporters, même si je suis pas forcément d'accord avec eux.
Voilà. Ouais. Et puis Conte qui voudrait pas donc conserver Icardi et il aimerait recruter Lukaku. Conte qui pourrait retrouver en Serie A celui qui a gagné la Ligue Europa, Mauricio Sarri, qui a gagné la Ligue Europa avec Chelsea, qui est en contact avec les dirigeants de la Juve. En fait, il hésite un petit peu Sarri puisque tu sais qu'il va avoir une décision du TAS, du tribunal arbitral du sport, pour savoir si Chelsea va être toujours puni et interdit de recrutement. Et lui, il hésite, il attend de savoir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire, quelle marge de manœuvre il va avoir avant de continuer ou non avec Chelsea. Voilà.
C'est une bonne idée, Mauricio Sarri à la Juve? Bon, ça t'inspire pas trop, visiblement.
Bah, je sais pas. Non, je sais pas.
C'est pareil, entre Naples et la Juve, je suis pas sûr que...
Ouais, il a d'autres joueurs,
il a fait le chemin, ouais. Et oui.
S'il trouve, je sais pas. Je sais pas.
François, un tout petit mot, je me permets une petite incursion dans ton buzzer. Info de Saber Desfarge, qui est au Metropolitano de Madrid. Tottenham est en train de s'entraîner et Harry Kane s'entraîne normalement. Vous savez qu'il n'a plus foulé les terrains depuis 6 semaines, une blessure en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. Il s'entraîne normalement et postule donc à une place de titulaire demain. Info de Saber Desfarge depuis Madrid.
Bonne info. François. À la place de Lucas, donc.
Sans doute, à la place de Lucas.
Ça va pas être facile de mettre
Je sais pas.
Non, tu sors, parce que tu sors pas Son, tu sors pas Eriksen,
Dali,
tu sors pas Ali.
Non.
Et tu vas pas jouer avec 5 attaquants, donc bon.
Ouais, mais c'est comme Liverpool qui va mettre Origi sur le banc, c'est pareil.
Ouais.
Voilà, après, c'est des joueurs qui vont être amenés à rentrer, peut-être, s'il rentre, s'il l'attaque pas d'entrée, Lucas, il va être amené à rentrer, peut-être qu'il fera la différence en rentrant.
C'est vrai.
Bon alors, très rapidement, en un mot, je vous dis juste que Olivier Dalloglio a été aussi nommé aujourd'hui, entraîneur de Brest.
Ah, c'est bien de le revoir sur un banc.
Ouais. Il succède à Jean-Marc Furlan, parti du côté d'Auxerre. Et c'était la priorité des dirigeants du promu. Jérôme Boateng, je voulais te parler de ça, puisque toi, tu l'as coaché en tant qu'ancien du Bayern, donc je pense que ça va t'intéresser. Il est revenu sur son transfert avorté l'été dernier au PSG. On avait beaucoup parlé de ça. Il s'est confié à Kicker en longueur, après sa saison très moyenne, et on comprend que c'est ce transfert-là qui a joué sur sa saison ratée. Il dit « Dans ma tête, j'étais déjà parti. Si vous avez une promesse aussi sûre et qu'une somme suffisante est versée, mais que soudain on vous dit non, quelque chose se brise en vous. En fait, au cours d'une réunion de dernière minute, on lui a dit « Non, finalement, tu ne partiras pas, tu vas rester et même tu vas jouer. » Alors, c'est pas ce qui s'est produit parce qu'il il s'est retrouvé sur le banc, Jérôme Boateng. Tu penses que ça joue vraiment ça dans la tête des joueurs? Toi qui connais bien Jérôme Boateng, solide quand même.
Ouais, un solide. Après, c'est pas que cette saison où il est moyen, ça fait quand même maintenant 2-3 saisons de suite.
Ah, quand il était sous ton commandement, il était moins bon déjà.
Ça a été, c'était plus le Jérôme Boateng de 2014 de la Coupe du Monde au Brésil. C'est dommage parce qu'il avait fait une Coupe du Monde, il a été fabuleux, il avait atteint un niveau extraordinaire. Mais c'est vrai que ces 2-3 dernières années ont été plus compliquées. Et j'imagine qu'il ait peut-être besoin d'un nouveau projet pour repartir, retrouver une forme peut-être de motivation ou de... Ça aurait pu lui plaire Paris, mais maintenant Paris après la décision que...
Mais ça aurait été un bon coup pour Paris?
C'est peut-être pas fini, hein.
Peut-être,
hein.
C'est pour ça.
Ça peut encore intéresser Thomas.
De la façon dont on joue Tourelle,
Puis de la façon dont tu l'as vu, toi, sur le terrain, en fait. C'est ça, surtout. C'est ça. Tu veux pas nous le dire? Tu veux pas te fâcher?
Non, j'ai pas envie de le dire.
Oui, mais.
Non, j'ai pas envie de le dire.
T'as pas envie, mais c'est encore pire que de le dire.
Non, mais c'est pas ça. Non,
dis-le, il est crabe.
Je ne dis rien. Je ne dis rien.
Bah si.
Bon,
bref.
Non, je ne dis rien.
D'accord. Alors,
Il est cramé.
Ouais, j'ai bien compris. Le tacle de Fabregas sur Mesut Özil, donc autre Allemand en difficulté.
Autre Allemand cramé.
Peut-être cramé. Il a joué à Chelsea, Arsenal, Fabregas. Donc, il a évidemment regardé la finale de Ligue Europa. Et ce qui lui a sauté aux yeux, c'est le match d'Özil, qui pourtant était assez transparent. Il a dit, c'est assez simple, je pense qu'être leader, soit vous l'avez en vous directement, soit vous ne l'avez jamais. Et quand Özil était au Real, il était entouré des meilleurs joueurs du monde. Quand tu rejoins un club d'un niveau un peu inférieur, il faut en faire plus. Arsenal l'a acheté pour être un vrai leader, mais je ne crois pas que Mesut ait ce qu'il faut en lui pour ça. T'es d'accord avec ce que dit Fabregas?
Oui, Özil, c'est une énorme déception à Arsenal. C'est le plus gros salaire du club. C'est très lourd à porter pour le club. C'est
presque 1,5 million par mois. Ouais.
Ouais. C'est énorme. C'est 20 millions à l'année. C'est beaucoup. Et pourtant, Emery a tout fait cette année. Hein. Ouais. Il lui a donné de la confiance. Bah, il l'a mis même s'il n'était pas bon.
Au final,
On avait l'impression qu'il le mettait presque pour essayer de le vendre.
Peut-être qu'ils vont justement s'en séparer, Arsenal. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et puis une toute dernière petite anecdote, très rapidement, puisque j'avais promis un striptease. Ah oui, donc ça faut quand même
allez,
quand
je t'attends.
Des choses.
Je t'attends, je peux prendre une photo.
Non, aucune photo. Je vais vous parler d'un club, le club de Lanza qui a validé sa montée en deuxième division catalane, c'est un tout petit club, c'était il y a une semaine, mais pour fêter ça, ils ont invité une stripteaseuse qui était déguisée en Catwoman, ça plaît à certains. Et ils l'ont invité à s'effeuiller dans les vestiaires, sauf que la scène
Pourquoi tu dis ça plaît à certains?
Bah, Catwoman,
tu parles pour toi ou
sauf que la scène a été filmée, relayée sur les réseaux sociaux. Scandale en Espagne, vrai scandale, vraie polémique, des mouvements mouvement féministe qui sont emparés de l'affaire, qui ont dénoncé ces agissements, message d'excuse du club. Et ensuite, pour aller encore plus loin, un membre du staff a reconnu être à l'origine de cette initiative, mais finalement ça ne suffisait pas. Il a fallu que le président et le secrétaire général démissionnent du club suite à ce scandale.
Ah non, ça veut dire que même du coup, il faut qu'on vire les Chippendales aussi alors. C'est tout doit virer.
Bah, c'est rare après un match de foot masculin que t'invites des Chippendales.
Non, mais je dis pas ça, mais c'est voilà, je trouve que c'est
ça parfois, peut arriver.
Je dis pas ça, mais c'est juste pour marrer un peu sur le fait que les assos, elles voilà, parfois elles vont un peu loin.
Bien.
Voilà.
Liberté.
Merci. On évite de s'effeuiller, c'est ça. Pour ce buzzer, pas de Catwoman, pas d'effeuillage pour celui qui n'est pas non plus Mesut Özil, mais un leader naturel.
Notre leader Maximo, que vous deux là, vous pourriez aller faire les Chippendales ce soir à Créteil pour le match entre la France et la Chine.
Mais pourquoi pas
l'équipe de France féminine.
Les pom-pom boys. On va faire des acrobaties, ça va être génial.
Parce qu'il y a du foot féminin dans RMC.
Exactement. Dernier match de préparation avant le début de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça débute dans une semaine. Et ce soir, les Françaises affrontent la Chine. Ce sera 21h à Créteil. Et puis, nous allons aussi vivre une belle soirée de rugby ce soir. Oui, bah oui, il y a aussi du rugby. On arrive dans...
On ne peut pas tout voir. Je peux pas tout voir. Je suis désolé. Voilà.
Et ce soir, nous aurons donc droit au premier barrage. Les barrages, c'est une sorte de quart de finale qui n'en porte pas le nom, qui va donc opposer le Racing 92 à La Rochelle. Le coup d'envoi est à 21h et ça se passe à Colombes, dans le vieux stade qu'on a rouvert.
Le stade de Colombes.
Le RMC Football Show tout de suite sur RMC. Merci François.
Et
merci
bon
Willy.
Bon week-end à tous.
Et bon week-end à tous.